Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur les inégalités de santé en Afrique à l'heure globale. Donc, c'est vraiment la perspective justement globale. Je vais m'expliquer dans un instant. Le plan du cours donc, s'intéresse, je vais vous présenter un petit peu le sujet parce que le thème tel qu'il est présenté, le titre est très vaste. Nous rappellerons donc les objectifs du millénaire pour le développement, le cadre de suivi de leur réalisation, puis nous montrerons quels sont les résultats de ces OMD santé, en particulier en Afrique, et nous terminerons par discuter quelques enjeux pour l'avenir et notamment les discussions en cours sur la préparation des objectifs de développement pour le monde après 2015, puisque la date d'échéance de réalisation des OMD actuellement, c'est 2015, et les données sur lesquelles nous nous basons pour mesurer leur réalisation, les données de départ remontent à 1990 et pas à 2000, pas au moment où les objectifs sont définis, mais les données de base, c'est l'année 1990. Donc, de quoi allons-nous parler ? Bon, les thèmes des inégalités sociales et de santé renvoient plutôt à des travaux menés par des économistes, ce que je ne suis pas, et plus récemment par la commission de l'OMS sur les déterminants sociaux en 2009. Donc, c'est ce rapport-là qui est la référence actuellement sur la question des déterminants sociaux et des inégalités de santé. Mais il me semble intéressant de vous renvoyer, pour tous ceux qui s'intéressent aux inégalités de santé, aux actes d'un séminaire qui s'est déroulé l'année dernière, donc en juin, le 4 et 5 juin, organisé par l'École des hautes études en santé publique, et où le titulaire de la chaire, donc promotion de la santé de l'École des hautes études en santé publique, résumait ainsi. Nous pouvons formuler trois constats sur lesquels fonder l'action pour réduire les inégalités sociales de santé. Premièrement, les inégalités de santé vont de pair avec les inégalités sociales. Et c'est bien ce qui nous intéresse. Et d'ailleurs, je vous recommande de lire pour la toile de fond de notre sujet le livre de François Bourguignon qui est paru en août dernier, qui s'appelle « La mondialisation de l'inégalité » et qui explique vraiment très très bien le contexte, donc la toile de fond des effets de la mondialisation, mais pas seulement, sur l'accroissement des inégalités au sein des pays entre différents groupes de gens et différentes régions, par exemple. Donc, ces inégalités de santé vont de pair avec les inégalités sociales. Deuxièmement, les sociétés les plus égalitaires sont celles où l'espérance de vie est la plus élevée et celles où les inégalités de santé sont les plus faibles. Donc, on voit bien que plus que le niveau de richesse, ce sont les inégalités. Et les sociétés égalitaires donc, ont des espérances de vie plus élevées que les autres et des inégalités de santé moins importantes. Troisièmement, les populations ayant les meilleures conditions de vie sont celles qui connaissent les meilleurs états de santé. On le présume, mais on le démontre également. Donc, en fait, moi, je ne vais pas traiter de ces sujets, mais je voulais que vous ayez ces références-là si ces sujets vous intéressent plus précisément. Moi, je vais parler des inégalités en Afrique à partir d'un constat que j'ai fait en lisant en 2009 le rapport d'évaluation du programme du Fonds mondial au Burkina Faso. Dans le cadre de cette évaluation du Fonds mondial à 5 ans d'activité, après 5 ans d'activité, donc l'évaluation s'est déroulée entre 2006 et 2008, les 4 pays, il y a eu 18 pays qui ont bénéficié de cette évaluation des programmes du Fonds mondial, donc sida, paludituberculose, dans ces pays, dont le Burkina Faso. Et à la lecture de ce rapport, j'ai été vraiment frappée de voir les faibles résultats en termes donc d'amélioration des OMD de la santé, en particulier sida, tuberculose, paludisme dans ce pays, qui est quand même un des 6 pays en 2011, mais aussi également avant, qui a toujours témoigné d'une volonté politique assez forte sur les questions de santé et des budgets nationaux consacrés à la santé parmi les plus élevés. Là, vous avez donc sur ce tableau le classement des pays selon l'engagement qu'ils ont fait en 2001 à Abuja de consacrer 15% des dépenses publiques du gouvernement à la santé. Et vous voyez, donc ça, ce sont les données 2012, mais l'année d'avant, le Burkina Faso qui se trouve ici avait déjà figuré parmi les 6 pays d'Afrique en 2011 qui consacraient 15% de ses budgets publics à la santé. Ici, nous sommes en 2012, c'est un petit peu en dessous, mais enfin, vous voyez quand même que le Burkina Faso est dans cette top liste. Donc, Rwanda, Botswana, Zambie, Togo sont dans les 4 seuls pays du continent qui ont respecté les engagements d'Abuja en 2001 de consacrer une part donc significative du budget du gouvernement. Alors, je me suis étonnée des résultats du Burkina Faso et je me suis dit quand même, qu'est-ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les données des rapports de réalisation des 8 OMD, mais surtout des OMD de la santé, à partir des sources qui sont le rapport des OMD donc annuel, qui paraît chaque année, de réalisation des objectifs du MINER pour le développement chaque année, le rapport OMD Afrique, qui paraît moins régulièrement, mais tout de même, on a un rapport 2011 qui est très détaillé sur la réalisation des OMD en Afrique, et puis d'une étude donc de Institute of Health Metrics and Evaluation, que je vous recommande aussi de voir, et dont je mettrai les documents principaux en ligne, hein, parce que chaque semaine, je vous propose donc sur le site internet du Collège de France, à la chaire Savoir contre pauvreté, les documents de référence qui vont en appui du cours et une liste de références. Donc vous aurez ces documents. Et donc c'est par rapport à l'évocation de la réalisation des OMD santé qu'on va analyser quelques inégalités et les interpréter. Alors, ces objectifs du millénaire pour le développement et leur cadre de suivi, très rapidement, pour ne pas surcharger cette présentation, nous sommes donc dans la fin des années 90 au moment où ils se définissent. Le paradigme du développement est celui de la lutte contre la pauvreté déjà depuis toutes les années 1990, avec des pays qui sont en train de mettre en place les cadres nationaux stratégiques de lutte contre la pauvreté avec des secteurs sociaux, avec un focus sur les secteurs sociaux, éducation et santé. Donc au moment où la déclaration du millénaire se prépare, c'est quand même la première fois que la communauté internationale s'entend sur des objectifs communs de développement. Et cette déclaration est adoptée le 8 septembre 2000 et elle établit donc les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Elle est signée par plus de 180 pays et institutions internationales. Pour vous rappeler le contexte, c'est l'année donc en 2000, déclaration du millénaire en 2000, de l'inscription du sida à l'ordre du jour des réunions du Conseil de sécurité pour la première fois de son histoire et de l'Assemblée générale des Nations unies la même année et l'année suivante avec l'engagement, donc la déclaration d'engagement pour le VIH-Sida de juin 2001 et qui va inscrire un engagement sur le long terme puisqu'on est toujours en train de suivre tous les 2 ans la réalisation, la mise en œuvre de cet engagement. Donc, je vous situe le contexte très très fort du sida à l'époque parce que les OMD de santé vont être dominés par les maladies infectieuses et les financements des OMD santé vont être prédominants sur la lutte contre le sida. Mais c'est bien le contexte de l'époque qui inscrit le sida au top des priorités. Alors, les objectifs du millénaire pour le développement, vous les connaissez, il y en a 8. Éliminer l'extrême pauvreté et la faim, donc proportion de population qui vit avec moins de 1 dollar par jour. Le deuxième, c'est assurer l'éducation primaire pour tous. Notez bien que c'est un objectif éducation, mais qui est quand même, somme toute, très restreint, puisqu'il s'agit de l'éducation primaire. Et ça fait partie des discussions actuelles pour les objectifs d'après 2015, d'essayer d'étendre un petit peu l'ambition de cet objectif éducation au-delà de l'éducation primaire. Troisièmement, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, et notamment les questions d'analyse de parité filles-garçons à l'école et dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur. Et 3 OMD santé, c'est quand même beaucoup pour ces 8 objectifs. Donc, 3 OMD santé. L'OMD 4, de réduire des 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans entre 90, donc 1990 et 2015. Et améliorer la santé maternelle en diminuant des 3/4 la mortalité maternelle entre 1990 et 2015. L'OMD 6 se formule comme ça, combattre le sida, le paludisme et les autres maladies. Alors vous voyez, les autres maladies, on ne mentionne même pas explicitement la tuberculose, qui fait partie évidemment de ces maladies, et toutes les autres maladies négligées, etc. Mais les maladies chroniques, donc vous voyez bien, ne font pas partie des OMD, ne font pas partie des objectifs. Donc les maladies chroniques, respiratoires, le cancer, les hypertensions artérielles, maladies cardiovasculaires, les questions de santé mentale, tout ça ne sont pas dans les OMD de la santé telles que définies en 2000. Est-ce qu'ils vont l'être dans la phase suivante? Probablement, parce qu'entre-temps, on a eu ce sommet de septembre 2011 consacré, donc l'Assemblée générale des Nations unies, à ces maladies non transmissibles. Mais on attend, les discussions sont en cours. L'OMD 7 est à trait à un environnement durable. Et l'OMD 8, c'est donc mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Donc ça concerne autant les pays du Nord que les pays du Sud en termes de réalisation et d'engagement sur l'aide publique au développement, l'accès au marché, des dispositions par rapport à l'endettement, etc. Donc c'est un OMD un petit peu à part, très global, mais dont vous avez la cible 8 qui concerne l'accès aux médicaments, donc qui est un OMD de la santé également, qu'il ne faut pas oublier dans les quelques-uns qui y sont, et qui stipule qu'en coopération avec l'industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement. Et vous avez une très bonne référence que je vous mettrai en ligne également à ce propos. Je ne vais pas traiter de cette question de médicaments. On a un cours sur les questions de médicaments bientôt, dans quelques semaines. Et voilà, bon, les OMD tels qu'ils ont été définis à l'époque. Alors, vous avez... Je bascule sur un PDF qui est le format donc, de mesures de réalisation, les indicateurs qui ont été définis à l'échelle internationale pour suivre la réalisation donc, des objectifs. Là, je vous parle des objectifs santé. Donc, l'objectif 4 pour la mortalité des enfants, vous voyez l'indicateur taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, mais aussi le taux de mortalité infantile plus globalement et la proportion d'enfants d'un an vaccinés contre la rougeole. Donc, tous les pays doivent mesurer ces indicateurs-là pour rendre compte de la performance de la réalisation de leur OMD 4. Pour l'OMD 5, c'est taux de mortalité maternelle qui doit être diminué des 3/4 sur la période et la proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié en tant qu'indicateur donc, de mise en place de systèmes de santé adaptés pour améliorer la mortalité maternelle. Il faut bien sûr que les accouchements et surtout les accouchements compliqués soient réalisés par du personnel qualifié et pas seulement du personnel paramédical ou voire moins l'assistante ou l'agent de santé qui est là dans le centre de santé parce qu'il n'y a personne et qu'il faut quand même faire l'accouchement. Donc ça, c'est un indicateur très important. Proportion d'accouchement assisté. Et donc, vous savez, là, pour le sida, voilà les indicateurs qui sont définis. Taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 24 ans. Et pour le sida, vous avez donc un indicateur de prévalence, c'est-à-dire nombre de cas à un moment donné, globalement. Mais la prévalence peut être augmentée par un nombre de cas de personnes qui sont mises sous traitement et dont la survie va être améliorée par le traitement. Et donc, n'est pas un bon indicateur de tendance d'une épidémie. Ce sont les nouveaux cas qui vont nous intéresser dans le cadre de suivi d'une pandémie et pas le nombre de cas à un moment donné parce que la prévalence peut être augmentée, mais ça peut être un bon signe que la prévalence soit augmentée si ça veut dire qu'il y a plus de gens qui survivent aussi. Vous voyez que la mortalité baisse. Donc, vous avez des indicateurs donc, de situation épidémiologique, vous avez des indicateurs de comportement, entre guillemets, utilisation d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque, et puis la proportion de population âgée de 15 à 24 ans ayant des connaissances exactes et complètes. Il ne suffit pas d'avoir entendu parler du sida, il faut connaître bien ses modes de transmission, ses modes de protection. Des questions précises sont posées dans le cadre des enquêtes en population pour mesurer ses connaissances. Bon, je vous donne par exemple ces indicateurs, mais je ne vais pas être trop longue sur ça, vous aurez tous ces documents. Donc pour le sida, il faut bien distinguer aussi ce qui relève donc des indicateurs d'impact, c'est-à-dire où on va essayer d'avoir des taux d'incidence des nouveaux cas, de les distinguer des indicateurs de résultats par rapport à l'amélioration de la couverture d'intervention, de prévention, de prise en charge, de disposition de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, d'accès au traitement. Tout ça, ce sont des services. Et on va mesurer la couverture donc, d'offres de ces services et d'accès des populations concernées à ces services. Et on va parler de résultats. Et ce sont des indicateurs dont on nous présente le plus souvent les données qui sont importantes. mais qui ne nous disent rien en termes d'effet de ces services et de ces interventions en termes de réduction du nombre de nouveaux cas dans la population qui reste à mesurer. Et comme ce n'est pas très facile de savoir, parce qu'on ne prend pas la séroprévalence, on ne mesure pas, on ne teste pas tout le monde pour le VIH, donc on n'a pas non plus des données prospectives. Donc, qu'est-ce qui est admis pour mesurer l'incidence des nouveaux cas? Eh bien, c'est le proxy qu'on utilise. Donc, la prévalence de l'infection à VIH chez les jeunes de 15 à 19 ans est admis comme étant le proxy pour l'incidence des nouveaux cas. Donc, cette prévalence des jeunes de 15 à 19 ans est intéressante à mesurer pour suivre l'évolution de la pandémie. Et parfois, la prévalence du VIH chez les femmes enceintes, et les femmes jeunes et certains groupes d'âge de femmes enceintes, peut être admis pour suivre, si on a des données sur plusieurs années, au moins on a les tendances de l'évolution. Alors, l'aide au développement, j'ai eu donc deux sources un peu différentes, mais je les ai mises toutes les deux, mais je ne vais pas les détailler toutes les deux. Le rapport OMD 2011 qui vous donne des données sur l'aide au développement, 10 pays les plus bénéficiaires au niveau mondial de l'aide au développement. La mobilisation en faveur des OMD santé avait été confiée donc à Jeffrey Sachs par l'OMS, par la directrice de l'OMS à l'époque, Brundtland, l'ancienne première ministre de Norvège. Et donc, on a une mobilisation très importante des financements pour la santé, on va y revenir. Mais le rapport le plus récent, il vient de paraître, c'est le rapport de Institute for Health Metrics and Evaluation 2012. Donc, ça s'appelle Financing Global Health 2012, The End of Golden Age, point d'interrogation, parce que ce qu'on constate, c'est que l'aide au développement donc, a atteint 148 milliards de dollars en 2010. Elle a augmenté de 61% entre 2001 et 2010, donc l'APD a augmenté globalement. Et l'aide internationale publique et privée, ce n'est pas seulement l'aide publique au développement APD, mais l'aide publique et privée, y compris les fondations, y compris donc les fonds privés des pays riches notamment, en appui à la santé, a atteint un pic en 2010 de 28 milliards de dollars. Donc, avec une progression qui a triplé sur la période 2001-2010, donc une aide à la santé des pays en développement multipliée par 3 sur cette période, avec un taux de croissance de 11% par an en moyenne sur la période. Alors, ensuite, l'impact de la crise financière mondiale est déjà visible sur cette aide publique au développement, avec des aides bilatérales qui diminuent, notamment en France, de manière assez significative, moins 13% entre 2010 et 2011, enfin sur une très courte période sur laquelle on a les données. La Commission européenne également, moins 5,6% donc, sur cette période. Le Canada, l'Allemagne, les États-Unis. Donc toutes ces aides bilatérales ont déjà commencé à diminuer, sauf le Royaume-Uni et l'Australie qui gardent des proportions d'aide publique à la santé qui continue d'augmenter moins, mais qui continue d'augmenter malgré la crise financière internationale. Donc une très forte volonté politique du Royaume-Uni de maintenir ses priorités sur la santé, et l'Australie aussi, ce qui est moins bien connu. Les aides multilatérales baissent, sauf les Nations Unies, au cours de donc très récemment, les aides Nations Unies augmentent, notamment parce qu'il y a eu un financement beaucoup plus important de l'UNICEF au niveau mondial. La Banque mondiale aussi maintient ses efforts. L'Alliance Gavi pour la vaccination et l'immunisation, donc c'est Global Alliance for Vaccination and Immunization, vous m'entendrez parler de Gavi assez souvent, c'est ce financement-là qui se maintient également. Et le Fonds mondial qui a chuté pour des raisons que vous connaissez, donc liées à des dysfonctionnements, des détournements, une révision des modes de financement, etc., une totale refonte donc du Fonds mondial ces deux dernières années, en tout cas, qui a eu un impact sur la mobilisation des financements, la mise à disposition des financements, puisque un des tours de financement des pays a été interrompu. Et vous voyez la Fondation Gates, en 2012, atteint pratiquement 900 millions de dollars pour la santé. Donc, c'est à peu près un quart du total des financements de cette fondation. Vous avez les 10 pays qui financent, qui bénéficient de l'aide au développement santé globale, hein, publique et privée toujours, hein, je vous dis. C'est donc ces 10 pays-là que vous voyez, l'Inde, le Nigeria, la Tanzanie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Kenya, Ouganda, Mozambique, Zambie, Congo. Donc, globalement, sans s'intéresser à la charge de maladie, globalement, voilà, ces 10 pays bénéficient d'un quart de l'aide au développement à la santé. Alors, l'aide à l'Afrique aussi a vu des évolutions récemment. En 1999, l'Afrique reçoit 24% de l'aide santé. Mais bon, c'est un quart de l'aide santé mondiale, mais l'Afrique, c'est 25% de la charge mondiale de maladie, c'est 3% des personnels de santé du monde, et c'est 1% des ressources économiques mondiales. C'est l'édito donc, du Lancet, de février 2008, qui nous rappelle ces chiffres assez frappants qui concernent le continent. Et entre 2001 et 2010, oui, l'aide à l'Afrique, l'aide santé en Afrique va augmenter de 19% par an sur cette période. Et en 2010, cette année-là, l'Afrique reçoit 56% donc de l'aide au développement et atteint 8 milliards de dollars. Mais c'est un continent où les maladies infectieuses, les pathologies maternelles, néonatales et désordres nutritionnels comptent pour 67 à 71% de la charge de maladie, mesurée par les DALI, je vais vous dire dans un instant ce que c'est, et 76% de la mortalité. Donc on est encore sur des profils épidémiologiques de pays pauvres et ça va encore durer un petit peu, donc on n'est pas encore sur une transition épidémiologique franche vers des maladies chroniques et de la modernisation, qu'on va retrouver surtout en ville. On est sur un continent où tout se produit en même temps, maladies infectieuses, maladies chroniques, maladies liées à l'urbanisation, etc. Notez que sur la période, en 2009, l'aide à la santé en faveur de l'Europe et l'Asie centrale, donc une aide au développement de l'Europe et de l'Asie centrale, augmente de presque 40% très récemment, donc ces dernières années. Et ça concerne les pays du voisinage donc de l'Union européenne vers l'Est et l'Asie centrale. Alors là, vous avez une belle carte donc, de ce rapport qui vous montre ici donc, l'aide totale dont bénéficient les pays. Bon, ça n'informe pas plus que ça. Donc vous voyez qu'en foncé, ce sont les pays donc, d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud, qui bénéficient de beaucoup de ces financements, donc en millions de dollars. Et puis, vous voyez des pays comme l'Algérie, la Mauritanie, et ces régions-là, ou même le Brésil et le Mexique bénéficient de beaucoup moins d'aide à la santé pour différentes raisons. On va en parler. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas de regarder l'aide globale en général, mais de la regarder par rapport aux problèmes de santé et aux priorités, population, niveau de pauvreté et charge de maladie. Alors, la charge de maladie est mesurée par le DALIS. Le DALIS, c'est Disability Adjusted Life Years. C'est donc une mesure de charge de maladie en année de vie ajustée sur l'incapacité. Ça veut dire que la norme est de vivre toute sa vie en bonne santé, avec des espérances de vie donc, connues. Et on mesure les années de vie en bonne santé perdues en raison d'un décès prématuré ou d'une maladie, y compris le nombre d'années de vie actives perdues du fait du handicap infligé à la population infectée. Donc, ces DALIS ont été calculés pour 289 maladies et accidents sur la période 90-2010. Donc, le rapport Global Burden of Disease Study, donc le Global Burden of Disease vient de sortir de la même institution, Institute of Health Metrics and Evaluation, donc en décembre. Et vous avez une actualisation de ces DALIS qui mesurent la charge maladie et qui est une valeur influencée par la taille de la population. Et ensuite, on s'intéresse donc à l'allocation de l'aide mondiale en proportion de cette charge maladie et des DALIS. Et voici donc la carte. Tout à l'heure, vous l'aviez en aide totale, et là, vous l'avez rapportée à la charge de maladie, ce qui permet de voir aussi des différences plus marquées. Mais toujours, donc, vous voyez, quel que soit le niveau de charge de maladie, cette région-là est la plus bénéficiaire. Et puis, pas loin derrière, ensuite c'est le Ghana. Vous voyez le Sénégal, dans toute l'Afrique francophone, le Sénégal est le plus bénéficiaire d'aide à la santé en proportion de la charge maladie et population. Mais par contre, tous ces pays-là, du Sahel, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, reçoivent peu en proportion de la charge de maladie, pays du Sahel. Et de manière inégalitaire, en tout cas pas du tout proportionnée à leurs problèmes de santé, problèmes de population, etc. Vous voyez aussi ici que le Ghana est un pays bénéficiaire en Afrique de l'Ouest, anglophone, beaucoup bénéficiaire, donc des fonds anglais notamment et américains. Donc c'est intéressant de passer un peu de temps sur cette répartition, sur cette proportionnalité. Et je vais vous montrer un tableau qui est aussi issu de ce document et qui est très parlant. C'est celui-là. Voilà. Alors ici, vous avez les récipiendaires de l'aide, donc les pays qui sont classés selon le montant d'aide reçue totale. Donc vous voyez, on parlait tout à l'heure des 10 premiers pays bénéficiaires. Donc c'est de la charge de maladie là, pardon. C'est la charge de maladie. Ici, c'est les 10 pays où la charge de maladie est la plus élevée au monde. Ils sont classés donc selon leur charge de maladie. Et là, ils sont classés selon ce qu'ils reçoivent en proportion de la charge de maladie. Là. Et donc vous voyez ce que montre ce tableau tout de suite, c'est que vous avez des lignes comme ça verticales. Ça veut dire qu'ils sont pas du tout, ils ne reçoivent pas du tout ces pays d'aide en proportion de la charge de maladie. Donc c'est pas du tout proportionnel. Ce que vous voyez, c'est qu'à peu près l'Inde, le Nigeria et le Vietnam sont à peu près les seuls pays où l'aide allouée correspond, est alignée. Donc alignée vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire où ça devrait faire une ligne horizontale pour s'apercevoir qu'ils reçoivent une aide en proportion de la charge de maladie. Mais vous voyez par exemple que la République démocratique du Congo, qui est le seul exemple d'Afrique francophone sur toute cette série, si je ne me trompe pas, est classée donc très haut dans la charge de maladie et va recevoir pourtant beaucoup d'aide, mais pas en proportion de ses problèmes de santé. Et que vous voyez aussi que le Mexique, le Brésil ont des charges de maladie importantes aussi, compte tenu aussi de niveau de population, etc. Et sont retrouvés assez bas de l'autre côté. Vous voyez le Brésil, le Mexique, donc pays émergents et qui ne reçoivent pas une aide à la hauteur de leurs problèmes. Voilà, donc je ne vais pas passer trop de temps, mais ce sont des analyses intéressantes que nous donne cette étude. Alors là, je mets ça parce que les dépenses de santé à l'échelle mondiale, on voit tout de suite, donc c'est World Mapper, mais en 2002, ça n'a pas été actualisé, mais ça n'a pas de raison d'avoir changé. Les inégalités ont augmenté, surtout sur les questions de dépenses de santé. Donc vous voyez que sur cette carte, on voit à peine l'Afrique par rapport donc aux questions de dépenses de santé. La répartition mondiale des dépenses de santé, c'est vraiment très, très inégalitaire. Alors, le cadre de suivi de la mise en œuvre de la réalisation de ces objectifs du millénaire pour le développement, vous avez vu des indicateurs, et l'autre cadre de suivi de l'efficacité de l'aide, c'est la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et l'harmonisation, qui donc a 5 principes qui doivent être respectés, et puis une douzaine d'indicateurs de mesure d'efficacité de l'aide. Donc vous voyez, pour chacun des principes de la Déclaration de Paris, vous avez des indicateurs qui doivent être mesurés par les pays et par les institutions internationales. Ces cinq principes, rapidement, sont donc l'appropriation, c'est-à-dire les pays doivent s'approprier la définition des priorités, les choix de stratégie qu'ils font. Et on en a un petit peu parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire, une appropriation, si on n'a pas les éléments de connaissance de la recherche épidémiologique, économique, sociale, anthropologique, qui nous donne suffisamment d'informations, et si on a des systèmes d'information sanitaire faibles pour informer la décision politique et le choix de priorité, et fonder ces priorités sur la situation qui est malheureusement pas assez bien connue des autorités du fait du peu de recherche et de financement d'analyse de situation tout simplement, ou de la recherche dans ces pays. Mais donc les pays donc internationaux, les pays d'aide doivent respecter cette appropriation et en même temps soutenir ce qui permet une réelle appropriation des stratégies, définition des priorités nationales et pas des priorités internationales qui dominent. L'alignement, c'est donc l'alignement de... Ah, pardon, oui, excusez-moi. Oui, je suis désolée. Et donc l'alignement, ça veut dire alignement des politiques internationales et des aides donc, sur les systèmes nationaux de gestion, de financement, d'approvisionnement en médicaments, enfin tout ce qui fait partie des systèmes d'information sanitaire, etc., plutôt que de mettre en parallèle des structures de gestion des programmes d'aide, utiliser les systèmes nationaux pour faire passer cette aide au travers du système national le plus possible. C'est l'alignement. Et l'harmonisation concerne les donneurs entre eux, c'est-à-dire qu'ils doivent harmoniser des dispositifs communs, des procédures, et pas chacun financer quelque chose avec des structures parallèles aussi, mais s'entendre donc sur des approches sectorielles, des approches nationales. Le quatrième principe, c'est la gestion axée sur les résultats, qui est d'ailleurs le moins appliqué des principes de la Déclaration de Paris. Il y a eu beaucoup d'efforts, notamment grâce aux travaux de l'OCDE. C'est vraiment du coaching de l'OCDE envers les bailleurs de fonds pour mettre en œuvre cette Déclaration de Paris et respecter les cinq principes. Et la gestion axée sur les résultats, mais justement les résultats en termes de résultats de couverture, mais aussi résultats en termes d'impact ont beaucoup moins été mesurés, analysés. Et la responsabilité mutuelle des pays et de l'aide internationale, on réussit et on échoue ensemble. C'est une responsabilité donc mutuelle de mise en œuvre que pose le principe de la Déclaration de Paris. Alors, quels sont les résultats des objectifs du millénaire pour le développement à l'échelle mondiale? C'est une diapositive donc, qui vient de Serge Tomasi à l'OCDE et qui montre que donc, pour le premier objectif, il est atteint. 500 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, notamment avec la croissance en Chine. Et donc la scolarisation primaire aussi, l'objectif atteint en 2015 pour l'objectif de scolariser un maximum d'enfants, mais en primaire, on est à l'école primaire. L'équité aussi filles-garçons à l'école primaire, en tout cas on n'a pas les données plus précises, enseignement secondaire, enseignement universitaire. Et puis les OMD de la santé ne seront pas atteints, et la mortalité maternelle notamment a été réduite de 50% en 2010, mais l'objectif est de la réduire des trois quarts avant 2015. Et elle reste très élevée en Afrique. 50% des cas de mortalité maternelle, donc des cas de mort de femmes enceintes ou qui accouchent en Afrique. Et la mortalité infantile a été réduite d'un tiers en 2010, donc aux deux tiers du temps de réalisation des OMD de la santé. Et elle doit être réduite des deux tiers avant 2015. Il y a eu des progrès, mais trop lents pour la réalisation de ces objectifs. Alors, la mortalité des moins de 5 ans, donc pour un peu plus de détails, il y a eu des améliorations. Le taux a baissé sur le continent de 165 à 118 décès pour 1000 naissances, donc sur la période 90-2009, mais c'est très lent et on n'atteindra pas. La mortalité des enfants de moins de 5 ans, ça reste un quart de la charge mondiale de maladie, selon l'étude de Institute for Health Metrics and Evaluation. Donc, c'est vraiment un objectif qui doit rester très important dans la phase d'après 2015. Et 50% de la mortalité donc des moins de 5 ans est enregistrée au Congo, en République démocratique du Congo, en Éthiopie, en Tanzanie, au Nigeria, en Ouganda. Donc, des pays vraiment ici à cibler, à continuer d'intervenir très fortement. Et en 2009, pour vous donner une idée, la rougeole, pour laquelle il existe un vaccin et ses complications, tue plus d'enfants que le sida, la tuberculose et le paludisme sur le continent. Notre élément important à considérer, c'est que le niveau d'éducation des mères joue énormément sur le niveau de mortalité maternelle. Là, vous avez les taux de mortalité maternelle donc pour 100 000 naissances dans différents pays. Vous voyez la Colombie, Haïti, et ici, vous avez le Tchad, la Guinée. Enfin, les taux de mortalité maternelle les plus élevés au Mozambique, Tchad, Guinée, Nigeria, Rwanda, Niger, Zambie, toute cette région. Et ici, ces taux montent, donc des taux de mortalité montent dans chacun de ces pays, si la mère n'est pas éduquée. Et au contraire, ces taux diminuent dans chacun de ces pays et de manière très significative, vous voyez, si la mère a une éducation secondaire ou supérieure. Donc c'est un élément important. Donc intervenir sur la mortalité infantile, c'est intervenir autant sur l'éducation que sur la santé et l'éducation des filles. Alors, entre les OMD 4 et 5, c'est-à-dire entre l'OMD qui concerne les enfants et celui qui concerne la mère, j'ai voulu passer un petit moment sur les grossesses précoces des filles de 15 à 19 ans, parce que c'est pas vraiment mentionné comme ça, mais de fait, ça concerne deux enfants. Une jeune fille adolescente qui a moins de 18 ans ou qui a moins de 15 ans, et son enfant, son bébé. Donc, si on veut réduire la mortalité des deux tiers avant 2015, ou après, parce qu'on ne va pas y arriver avant 2015, il faut vraiment se préoccuper de la question des grossesses précoces. Et ça concerne quand même 18 millions de jeunes filles de moins de 20 ans par an, dont 2 millions de moins de 15 ans. Et c'est la première cause de mortalité des adolescents dans les pays pauvres. Et le risque pour le bébé de mourir est multiplié par deux par rapport à une maman qui a plus de 20 ans, pour des raisons aussi anatomiques évidentes. Et le taux de fécondité précoce est le plus élevé en Afrique subsaharienne. Et bien qu'en valeur absolue, en nombre absolu, il soit plus élevé en Asie compte tenu de la population, mais en proportion, c'est donc le plus élevé en Afrique subsaharienne, avec surtout ces pays Angola, Tchad, Libéria, Malawi, Mozambique, Ouganda, Zambie, Guinée, Mali et Niger, qui enregistrent les taux les plus élevés. Notez que ce n'est pas un phénomène propre aux pays en développement, parce que les grossesses précoces sont très fréquentes dans les pays à faible fécondité, notamment en Angleterre, aux États-Unis et en Irlande relève aussi. Alors, c'est une étude intéressante qui a été faite par Overseas Development Institute, c'est un think tank qui est en Angleterre. Et chaque fois que je vous nommerai comme ça un think tank, retenez-le bien, Chatham House, on a parlé la semaine dernière, Overseas Development Institute, vous avez vraiment des études et des données très, très intéressantes dans nos sujets. Et Center for Global Development à Washington aussi. Donc là, vous allez directement sur des thèmes importants. Alors, sur les taux de grossesse précoce n'ont enregistré aucun progrès sur la période 2000-2009, donc la première période, et le rapport 2012 relève que la diminution... aucun progrès, entre 90 et 2000, et le rapport 2012 relève que la diminution des grossesses adolescentes est allée même plus lentement sur la décennie écoulée. Donc c'est un frein, bon, c'est un vrai problème médical et social, mais c'est un frein à la réalisation des OMD mères et enfants. Alors qui sont ces jeunes filles ? Bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, 90% des grossesses adolescentes sont des jeunes filles mariées. Ce sont des jeunes filles qui à 75% ont souhaité leur grossesse. Les filles sont valorisées en leur capacité d'enfanter, hein, c'est vraiment une valeur sociale très forte. En Afrique subsaharienne, un tiers des filles seulement en sait assez sur comment on prévient une grossesse. Donc il y a beaucoup d'ignorance au niveau d'éducation, etc. Mais ce ne sont pas des grossesses par hasard. C'est quand même assez frappant de noter que 75% de ces grossesses sont souhaitées. Et l'offre de services a un impact très limité, l'offre de services de planning familial ou d'information ou de consultation prénatale, etc. Ce qui marche, c'est l'école. Ce que dit l'étude, c'est que le mariage précoce est retardé avec la scolarisation. 10 ans d'école en plus, donc 10 ans d'école retardent le mariage de 6 ans. Voyez. Donc la scolarisation, les études sont les interventions qui fonctionnent le mieux pour prévenir les grossesses précoces. Mais justement, maintenir les filles à l'école, c'est justement une des difficultés, mais c'est l'intervention la plus efficace. Alors, la mortalité maternelle, plus généralement, pas seulement adolescente, c'est dans 99% dans les pays en développement. Une femme dans ces pays court un risque de... Donc, une femme sur 150 court un risque de mourir pendant une grossesse au cours de sa vie, versus une pour 3800 dans nos régions. C'est totalement exceptionnel dans nos régions. Et l'Afrique enregistre 50% de la mortalité maternelle. N'oublions pas qu'une proportion importante et pas toujours mesurée de causes de mortalité maternelle vient des avortements. Avortements qui sont pratiqués dans de mauvaises conditions à 97% des cas, Du fait de la clandestinité, l'avortement est illégal dans la plupart des pays du continent, et du fait de la clandestinité, et même des femmes qui essaient de s'avorter toutes seules, donc c'est un élément important aussi d'intervention pour prévenir ou légaliser l'avortement. On a vu qu'en Afrique du Sud, la question de la légalisation a permis une réduction de mortalité par maternelle importante, notamment en réduisant la mortalité par avortement. Donc ça a été tout à fait mesuré par une étude récente de l'Institut Guttmacher. Alors les interventions, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes? Ben, les interventions préconisées, c'est 4 consultations prénatales pendant la grossesse et un accouchement assisté par du personnel qualifié. Et ce qu'on voit, c'est que sur les 15 pays seulement sur 38 qui ont fait partie d'une étude sur le continent, 60% des femmes enceintes bénéficient de 4 consultations prénatales dans ces pays. Et en Afrique de l'Ouest, seulement le Bénin et le Cameroun. Donc dans toute l'Afrique de l'Ouest, aucun pays n'atteint une proportion raisonnable de nombre de consultations prénatales pour prévenir les complications lors de l'accouchement, les dépister suffisamment tôt et intervenir suffisamment tôt, assurer la référence, etc. Et ces consultations prénatales, donc vous voyez que là, on a des taux de couverture de populations qui ont une consultation prénatale. Donc vous voyez, on attend 80% et plus de 80%, voire 100% dans certains pays qui sont ici. Ça reste très bas en Somalie, en Éthiopie. Bon, vous voyez, l'Éthiopie a des taux de mortalité importants, mais vous voyez, il y a quand même seulement 20% des femmes qui ont même une consultation prénatale à l'échelle du pays. Bon, le Tchad, ça reste très bas. Niger, vous voyez tous ces pays du Sahel, là, ici, Tchad, Niger, le Mali, ici, l'Érythrée. Là, on est en Mauritanie. Bon, ils sont tous en bas. Ils sont tous en bas de la courbe en termes d'accès, donc couverture de consultation prénatale. Et là, on a une consultation prénatale pendant toute la grossesse. Et là, on en a 4. Et donc, vous voyez le peu de femmes qui ont accès à 4 consultations prénatales pour prévenir les complications de la mortalité maternelle. La proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé, là vous avez sur 2 périodes, 90-99 ici et 2000-2009 en bleu. Et vous voyez qu'en Afrique, ça a très peu augmenté sur toute la période. Donc en 20 ans, on a fait peu de progrès pour améliorer la proportion d'accouchements par du personnel qualifié sur le continent. Et la mortalité maternelle, donc vous voyez, est beaucoup plus élevée en Afrique comparée à l'Asie et aux pays industrialisés. Et vous voyez les évolutions, là, ce sont des efforts difficiles, lents, laborieux, et ici, un peu plus important. Et là, on a... voilà, donc vous voyez, c'est juste pour vous montrer les disparités. Alors, quel est un des gros problèmes? C'est le manque de personnel pour assurer les consultations, pour assurer des accouchements avec du personnel qualifié, mais aussi de la chirurgie, parce que sauver une mère, c'est la sauver à l'hôpital dans l'urgence. Une complication, c'est vraiment une extrême urgence. Donc ça veut dire du personnel, des chirurgiens, du plateau technique, de la sécurité sanguine, assez de sang pour la transfusion, parce que les questions de sécurité sanguine, c'est une chose, mais la disponibilité du sang, c'est vraiment un gros, gros problème aussi sur le continent, partout dans les régions, pas seulement dans les villes. Et vous voyez que les mortalités donc, infantiles, moins de 5 ans et maternelles, sont directement diminuées en fonction du taux de disponibilité des ressources humaines. Donc c'est le facteur majeur de frein également à ces progrès. Vous voyez aussi cette carte de World Mapper concernant la répartition des médecins dans le monde, et qui date de 10 ans, mais ça n'a sans doute pas tellement changé. Et où est l'Afrique vraiment dans cette proportion, et tous les médecins donc sont répartis plutôt dans la partie nord et de la planète. Alors vous avez une très bonne étude aussi qui témoigne de comment le Rwanda a amélioré les résultats en termes de mortalité maternelle ces dernières années, en obligeant donc les femmes à venir en consultation prénatale, en mettant en place des systèmes de financement des transports, de couverture des frais, donc de consultation, de césarienne, etc., en améliorant le dispositif donc de référence de l'urgence et de la chirurgie, toute une série de mesures qui sont très bien décrites. On sait comment améliorer la situation. Après, c'est une question de volonté politique et de décentralisation de l'offre de services. Alors, pour l'OMD6, combattre le sida, le paludisme et les autres maladies, j'ai 5 mots-clés sur l'Afrique, sur le sida, qui sont... En 5 mots-clés, vous avez les problèmes majeurs. Donc, c'est l'Afrique, la ville, les femmes, les jeunes et les groupes à risque. Voilà les éléments importants qui nous intéressent pour suivre la lutte contre le sida dans le monde. L'Afrique, c'est 70% des nouvelles infections. Donc, c'est la dynamique de propagation se continue donc sur le continent de manière très importante. Un tiers de la pandémie en Afrique australe et 50% des morts mondiaux, c'est en Afrique du Sud. Donc voilà où se déroule l'épidémie. La ville, j'incite parce que la prévalence, on est en plein phénomène d'urbanisation donc dans toute l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Elle est galopante en Afrique de l'Ouest et va se poursuivre dans les années. Et l'épidémie de sida est déjà plus importante en ville. Donc, et on imagine bien aussi les questions de promiscuité. Les maladies de la promiscuité vont se développer à nouveau dans les villes. Et la question de la tuberculose, qui est l'infection opportuniste la plus fréquente liée au sida. Donc on peut anticiper tous ces phénomènes qui vont se produire là, dans les années qui viennent et quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre pour les politiques de santé urbaine par les communes, par les collectivités, par les politiques nationales, parce que les dynamiques pandémiques vont se dérouler de cette manière-là dans les années qui viennent. Les femmes, sida est la première cause de mortalité des femmes en âge de procréer en Afrique. 60% des cas de sida en Afrique sont des femmes. Mais si on s'intéresse aux jeunes, une étude récente dans un pays d'Afrique de l'Ouest récemment, entre 20 et 24 ans, on a 15 femmes infectées pour un garçon. Donc 15 filles pour un garçon dans cette tranche d'âge. Donc l'épidémie des jeunes, c'est une épidémie de filles. 75% l'ONU SIDA disait il y a 3-4 ans à peu près, 75% des jeunes séropositifs entre 15 et 24 ans sont des filles. Donc c'est vraiment une pandémie féminine. On aura un cours à ce propos, donc je ne vais pas insister. Mais les jeunes, c'est moins connu. 75% des jeunes de 15 à 49 ans ne connaissent pas leur statut sérologique. Donc il y a peut-être même une offre de dépistage qui s'est beaucoup développée, mais il n'y a pas d'incitation ou pas d'intérêt à se faire dépister. Donc les jeunes ne connaissent pas leur statut sérologique, ne se protègent pas pour beaucoup. Très peu d'utilisation, donc le niveau d'utilisation de préservatifs sont bas. Connaissent pourtant les risques et ne connaissent pas le... Alors, pour les groupes à risque, donc les groupes à risque sont les prostituées, les usagers de drogue, les homosexuels, les hommes en uniforme et tous ces groupes plus exposés que d'autres à être infectés par le VIH et les maladies sexuellement transmises, bien les séroprévalences ne sont pas connues comme elles l'étaient avant. C'est surprenant parce que l'évaluation du Fonds mondial et des interventions du Fonds mondial le montraient déjà en 2008-2009. On n'avait pas assez de données sur ces groupes à risque par pays et donc pour suivre les évolutions d'une année à l'autre. Et on a le même constat dans le rapport OMD Afrique 2011, donc plusieurs années après. Alors, l'étude des jeunes, qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? La moitié des nouvelles contaminations sont dans cette population de jeunes. La moitié des nouvelles contaminations, ils sont exposés par des rapports sexuels précoces, des mariages précoces, des grossesses précoces. Le sexe ratio, donc je viens de vous le dire, 15 femmes pour un homme entre 20 et 24 ans. Et puis la séroprévalence est la même des filles de 15 à 19 ans et des garçons de 25 à 29 ans. Donc elles ont des rapports sexuels avec des hommes 10 ans plus âgés qu'elles. Il y a vraiment un décalage de génération pour des tas de raisons liées à leur vulnérabilité aussi économique. Donc elles s'exposent avec des hommes plus âgés. Et 3% seulement des 15-24 ans, donc des adolescents et un peu plus, ont eu un dépistage. 3%. Donc ils ne connaissent pas leur statut sérologique. Et la prévalence, que dit l'étude surtout qui est frappante, c'est que la prévalence est plus élevée parmi les personnes les plus informées, les plus instruites et les plus riches. Alors ça, c'est aussi étonnant pour nous qui avions travaillé aussi dans les années 90. On n'avait pas cette image de pandémie qui était plutôt ceux qui en savaient le moins, les pauvres, les victimes quoi, qui n'étaient pas en mesure de se protéger, qui n'avaient pas accès à l'information, etc. Mais là, non, l'épidémie en milieu urbain est en train de se modifier complètement avec des jeunes parfaitement informés, qui sont instruits, qui ont de l'argent. Comment ils ont cet argent, etc., et qui sont les plus exposés à l'infection à VIH. Donc c'est une nouvelle dynamique urbaine avec un niveau de connaissance donc des risques qui n'a pas d'effet sur la vulnérabilité. Alors, ce qui n'est pas dans l'étude, et je pense qu'il intervient aussi, c'est tous les phénomènes d'alcool. Et l'alcool qui expose... l'alcool et les drogues qui, en diminuant la perception du risque, les drogues intraveineuses, évidemment, il y a un risque direct d'infection à VIH, mais l'alcool et les drogues en général diminuent la perception du risque et donc pas de protection lors de rapports sexuels à risque et un risque d'infection plus élevé et des phénomènes donc, d'alcoolisation des jeunes qui interviennent. Alors, il y a un autre rapport qui décrit très bien les inégalités donc de résultats et d'accès et de couverture entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. C'est le rapport qui a été présenté par l'ONU-SIDA et l'Organisation internationale de la francophonie à Kinshasa, au sommet de la francophonie, en octobre dernier, et qui montre des taux de couverture très différents, donc d'accès au traitement à ARV, aux médicaments antirétroviraux, d'accès à la prévention, la transmission mère-enfant du SIDA, d'accès à l'information, etc., avec des couvertures d'offres de services très différentes entre ces régions. Et là, vous avez donc un groupe à risque qui est celui des homosexuels, dont on disait autrefois qu'ils n'existaient pas et qu'ils n'étaient pas spécialement concernés par l'épidémie de VIH en Afrique. Et là, on a des taux très élevés de prévalence VIH chez ce groupe-là. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on dit sur l'évolution de l'ONDC6 qui a eu une baisse une réduction donc de la propagation de la pandémie de sida. Elle est stabilisée dans plusieurs régions d'Afrique australe notamment, en raison de... Et ils mettent en perspective donc les résultats, ça c'est donc le rapport ONU-SIDA 2011, donc ils mettent en perspective le nombre de personnes infectées avec les financements mondiaux pour le sida. Donc ça, c'est une interprétation. En discutant avec Jean-Michel Severino récemment, qui est donc dans le panel de réflexion pour les OMD après 2015, il me dit l'Afrique, depuis 10 ans, en termes de croissance, a bénéficié de 300 000 milliards de dollars de plus par an pendant 10 ans, et que c'est autant de PIB en plus qu'ont eu les pays. Et est-ce que tout cet argent n'a pas quelque part retenti sur l'amélioration des situations de santé. Voilà, donc vous avez deux interprétations. Alors, je n'ai pas trop long sur les limites de la prévention, c'est toute une discussion, mais on l'a dit, hein, donc pas de connaissance du statut sérologique. Mais c'est la même chose ici, hein, 30 000 personnes séropositives en France ignorent séropositives dans notre pays. Donc les questions d'accès au dépistage et de connaissance du statut sérologique sont les mêmes. Nos jeunes ne sont pas dépistés pour le VIH. Donc connaissance, comportement et 75% des hommes séropositifs dans 4 pays à prévalence élevée déclarent le rapport sexuel récent non protégé. Donc toujours cette campagne de prévention à mener, mais s'interroger aussi sur l'efficacité de ces campagnes de prévention pour avoir des résultats comme ça au bout de 30 ans, puisque cette année, on a fêté entre guillemets les 30 ans de la pandémie, donc en 2011, 1980, les premiers cas aux États-Unis, et 30 ans après. Et on a toujours des résultats quand même très très limités en termes de prévention, même si on a fait beaucoup de progrès en termes d'accès au traitement, mais avec quand même des taux de couverture qui restent bas en Afrique. 37% de personnes accèdent au traitement, ou moins de 40%, ce n'est pas non plus tout le monde, toutes les personnes éligibles. Très rapidement, paludisme et tuberculose, des progrès aussi, et le rapport qui dit à chaque fois pour le paludisme et la tuberculose, donc qui font partie de l'OMD6 également, des progrès, sauf en Afrique de l'Ouest. À chaque fois, on lit ça, sauf à l'exception de l'Afrique de l'Ouest, je vous cite, à l'exception de l'Afrique de l'Ouest, et c'est quand même frappant parce que sur le tableau, ce n'est pas très lisible, mais là, vous avez Tchad, Mali, Burkina Faso, Congo, Niger, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, République du Congo, Bénin, ils sont tous là. Ils sont tous les derniers pour la lutte contre le paludisme. Et la tuberculose, pareil, donc des améliorations, sauf en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, Alex, c'est bon, je passe vite. Conclusion, il y a un consensus qui s'est dégagé sur des objectifs clairs, avec des indicateurs mesurables, que les pays ont mis en œuvre tant bien que mal, ont pu suivre tant bien que mal. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, mais c'est sur ma première diapo, avec l'aide de l'OMS, The Health Metrics Network. Donc, vous pouvez trouver le site internet qui a développé des outils d'aide aux pays pour améliorer les systèmes d'information sanitaire, le recueil des données et la mesure de réalisation des OMD de la santé. C'est un programme très intéressant qui est de l'appui technique, mais les pays doivent après mobiliser de l'argent eux-mêmes et trouver de l'argent auprès des bailleurs de fonds pour financer ces améliorations techniques des systèmes nationaux d'information sanitaire pour mesurer. Mais donc il y a eu des évolutions, mais beaucoup plus de financement sur le sida plutôt que les autres maladies, et moins sur les systèmes de santé dans leur ensemble pour justement permettre d'améliorer la santé maternelle et infantile, et notamment les urgences et les hôpitaux, parce qu'on parle beaucoup des soins de santé primaires, mais la référence qui va sauver, c'est l'urgence, c'est pouvoir transporter quelqu'un en urgence, pouvoir être traité en urgence, opérer en urgence, et tout ça, c'est le niveau hôpital, et quel est l'accès aux services et quel est l'accès au financement. Et nous n'avons pas encore parlé des maladies chroniques qui s'étendent beaucoup en milieu urbain, comme chez nous, et qui deviennent progressivement les profils donc des maladies les plus importants. Alors, pourquoi des progrès sont-ils très lents en Afrique ? Je vous mettrai en ligne un article que j'ai écrit avec quelques hypothèses à ce propos, mais est-ce qu'il y a une volonté politique nationale pour la santé ? On a vu que seulement 4 pays en 2012 ont respecté l'engagement d'Abuja de consacrer 15% de leur budget à la santé. Et pour la plupart, c'est un très petit nombre de dollars par habitant, parce qu'il faut regarder le budget public, mais également le nombre de dollars par habitant. Et tout ça, c'est très bas, c'est 10 dollars par habitant par an, c'est 20 dollars par habitant par an. Et le rapport de Jeffrey Sachs en 2001 préconisait au moins 30 à 40 ou 50 dollars par an par habitant de financement pour la santé, pour un paquet minimum d'activités, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'Afrique ? Alors, je vous montre cette slide parce que j'ai pris ça sur le site de The Economist, la revue hebdomadaire anglophone, qui est donc la semaine d'intervention au Mali, donc antiterroriste. Et vous voyez que tous les sujets qui intéressent donc ceux qui réagissent sur le site, vous voyez, les internautes qui vont faire des commentaires, etc. Et donc, The Economist a ça sur sa page Internet, et vous voyez, les commentaires portent sur le Japon, la Chine, les tensions, l'Amérique, l'Europe, etc. Le Mali est ici. Donc, quand même, la semaine d'intervention et de tout ce qui a été médiatisé très fortement en France, et vous voyez à quel point ça intéresse les internautes à l'échelle plus internationale. Donc, je pense qu'il y a un faible intérêt pour l'Afrique, en particulier l'Afrique francophone. Et puis, une question de volonté politique internationale sur la santé. Mais est-ce qu'elle... Oui, il y a beaucoup de discours. Et oui, il y a eu des financements mondiaux importants et surtout américains, publics et privés, pour le sida. Donc, c'est quand même très ciblé. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à développer des systèmes de santé dans le long terme pour des maladies qui ne sont pas forcément infectieuses, pour la santé maternelle, etc. Et vous avez vu tous les faits que je vous ai montrés sur les résultats en Afrique francophone versus Afrique anglophone, avec des aides qui ont été incomparables. Pendant les 10 dernières années, l'aide bilatérale française s'est retirée, a beaucoup diminué. L'aide bilatérale allemande à la santé en Afrique de l'Ouest, qui était très présente pendant les années 90, s'est retirée. L'aide européenne bilatérale a diminué dans cette région. Et pendant ce temps-là, les Anglais se sont investis beaucoup plus que jamais, donc dans la décennie écoulée, en appui à la santé des pays d'Afrique de l'Est, plus les financements PEPFAR donc américains, plus les financements mondiaux qui ont bénéficié aussi plus à cette région. Donc l'étude reste à faire. On a toutes ces hypothèses, mais l'étude reste à faire de manière rétrospective et maintenant pour essayer d'avoir des éléments d'analyse de si ces pays ont de si faibles résultats, quelles sont les inégalités à l'œuvre à l'échelle globale. Et c'était ça que je souhaitais vous montrer. C'est d'autant plus important que les transformations à venir sont attendues, sont importantes. Croissance de population donc sur le continent multipliée par 2 entre maintenant et 2050. Il va y avoir 2 milliards de personnes sur le continent en 2050. Donc la plupart, donc urbanisation aussi très importante, avec autant d'instabilité politique, les inégalités sociales, les inégalités de santé s'accompagnent d'instabilité politique. On n'a pas besoin de le démontrer, des études le démontrent, mais enfin, ça se conçoit clairement. Et 800 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi en Afrique et en Asie d'ici 2030. 2030, c'est très proche, nous sommes en 2013. 800 millions de jeunes. Et vous voyez ici une carte d'évolution de la population urbaine en Afrique de l'Ouest entre 1950 et 2010. Et vous voyez le petit point, donc les petits points de la population d'avant, voyez, tous ces petits points, et puis les pôles qui sont actuellement, donc les gros pôles urbains, et d'ici peu, on aura donc une continuité d'Abidjan à Lagos de population urbaine avec ces phénomènes que je vous ai décrits. Je vous remercie pour votre attention.